Merci beaucoup. Alors, je considère avoir une double tâche en quelque sorte, c'est-à-dire de entrer effectivement en plein dans cette problématique de la question sorcellaire en Centrafrique, qui a beaucoup occupé aussi Bruno Martinelli. Moi, je continue à l'appeler Bruno. Vous voyez comme Bruno après ma thèse, mais sinon c'était M. Martinelli. Il y a eu des glissements dans le temps, mais qui a beaucoup occupé donc en Centrafrique. Et ensuite, je voudrais essayer de, à travers un raisonnement que j'espère de pouvoir développer dans le temps qui m'a été octroyé, je voudrais essayer de démontrer ce dont je me suis moi-même rendu compte en relisant les derniers textes sur la sorcellerie de Bruno, qu'il avait eu parfaitement conscience, une conscience aiguë d'une spécificité, une grande spécificité de la question sorcellaire en Centrafrique, laquelle spécificité ne se réduit pas à l'exercice d'une violence qui est pourtant une donnée essentielle et évidente en Centrafrique, mais qui tient en quelque sorte à un rapport extrêmement complexe, articulé, qu'en Centrafrique s'est construit avec le temps, le passé, la mémoire, la tradition, le patrimoine, on l'appellera selon les cas comme on voudra, et qu'il a essayé d'interpréter à sa manière, accessoirement, enfin moi j'ai consacré toutes mes recherches ici, où j'ai fait ma thèse de doctorat au même sujet effectivement, et lui il a fait en effet sur ce sujet son propre parcours évidemment, et je me suis rendu compte en vous écoutant hier qu'il a en effet essayé, probablement surtout dans le dernier texte qu'a publié Sandra dans son livre, d'interpréter cette spécificité à la lumière des concepts qu'il avait pris de ses premiers travaux avec la force, donc d'ordre cognitif, apprentissage, transmission, cadre cognitif et dissonance ou dissociation cognitive aussi. Je vais y arriver à travers ma présentation. Alors, les 10 ans de recherche, c'est vrai, il y a un petit côté biographique. Moi, je suis arrivé ici un jour d'automne 2004 à la MMSH. Bruno, je me suis présenté à lui. Je venais de l'université de Turin, en Italie, où j'avais fait mes études universitaires. Bruno m'a effectivement accueilli en thèse, accepté comme candidat en thèse. Il m'avait immédiatement inscrit en thèse en disant que, au moins à un certain niveau, les Italiens ils étaient très préparés pour tout ce qui était du côté français matière de DEA, mais par contre sur le terrain, alors là. Et donc.
Philosophe.
Voilà, je venais d'ailleurs de ce qui est aujourd'hui, je pense, une maîtrise de philosophie, donc tout est déjà dit. Et effectivement, je suis parti, je suis arrivé à Bangui le 1er mai 2005, le jour où François Bozizé était officiellement élu président de la Centrafrique. Bruno, on l'a vu, il travaillait par contre déjà depuis 2001 en Centrafrique, donc il y avait déjà toute une histoire avant. Mais bien au-delà de la question biographique, qui n'est pas très intéressante, de ma question biographique, je considère qu'à partir de 2005, par les effets conjoints d'un certain nombre d'événements et de coïncidences, un chantier ethnographique portant spécifiquement sur les phénomènes de sorcellerie s'est ouvert en Centrafrique, qui a ensuite rassemblé autour de la figure de Bruno aussi une équipe, parce qu'on peut bien dire que c'était une équipe de chercheurs, une équipe dont, à titre purement personnel, et en ayant soin bien sûr de mentionner ses avatars récents, par exemple l'ANR et Issa, mais je ne peux que regretter un certain délabrement qui s'est produit sous l'effet à la fois d'événements néfastes, la maladie et le décès de Bruno, la guerre civile en Centrafrique, mais aussi d'obstacles bureaucratiques et de choix personnels aussi. Alors je voudrais revenir d'abord sur certains de ces événements ou de ces coïncidences, qui n'étaient bien sûr pas des coïncidences, c'était des constantes sociologiques qui demandaient à être analysées, qui ont déterminé l'ouverture de ce chantier centrafricain sur la sorcellerie. Je le ferai franchement voilà, moins pour revenir sur la petite histoire de mes recherches ou de celle de certains des collègues ici présents, que pour essayer de montrer le fait que ce chantier a joué, et je pense qu'il pourra encore jouer, un rôle tout à fait particulier, important et spécifique à l'intérieur du débat scientifique portant sur l'effet de sorcellerie en Afrique équatoriale notamment, un débat qui d'ailleurs dans les années 2000 et même 90 était particulièrement vif. et à l'intérieur duquel je pense qu'on a eu quelque chose effectivement à dire d'important. Alors, en 2005, début 2005, Alexandra Simpric et moi-même, qui étions alors fraîchement inscrits en thèse avec Bruno, nous sommes partis sur le terrain, elle au mois de janvier 2005 pour aller à Bangui, moi donc le 1er mai 2005 pour me rendre immédiatement à Bambari. Bambari, c'est dans le centre du pays, je ne sais pas pourquoi il y a cette chose-là dedans maintenant. Hop. Donc Bambari, bon, c'est dans le centre du pays. Alors, nous étions partis sans nous être rencontrés avant. Nous avions des programmes de thèse avec Bruno qui n'avaient rien à voir avec la sorcellerie et nous sommes revenus quelques mois après du terrain avec des données qui se recoupaient et surtout avec la nette impression qu'autour des affaires de sorcellerie pour ce qui était d'Alexandra et autour des rumeurs de sorcellerie pour ce qui était de mes recherches se jouaient certains enjeux majeurs de la société centrafricaine contemporaine et donc aussi de nos recherches futures. Alors, comme il le raconte, il explique dans le texte que Sandra a publié, Bruno, au même moment, printemps 2005, ouvre un chantier ethnographique à Bangui sur les violences antisorcellaires qui se produisaient alors à grande échelle dans les quartiers de la ville, de la capitale. Alors, on peut le dire d'une autre manière, au-delà des données biographiques. Les faits de sorcellerie sont évidemment un sujet classique d'une anthropologie attentive aux dimensions culturelles, symboliques, de la quête de soins, des représentations du malheur. Mais dans ce cadre, la Centrafrique se distingue nettement par les violences populaires liées aux accusations de sorcellerie et par le rôle majeur joué par l'État. L'effort de l'appareil législatif et judiciaire dans la répression du menace sorcellaire, aussi bien à Bangui que dans l'intérieur du pays, en était et demeure aujourd'hui l'indice. Ces faits invitaient un renouvellement des recherches sur et dans ce pays, ce qui m'amène directement à une deuxième considération. La donnée sociologique, si vous voulez, primaire, qui était constituée par les violences antisorcellaires, appelait à un approfondissement historique pour essayer de reconstituer à la fois les trajectoires, les reformulations des représentations du malheur, de la maladie, de la mort qu'on enregistrait progressivement sur le terrain, mais aussi l'origine des conflits interpersonnels, interfamiliaux, intercommunautaires qu'on observait et qui débouchaient fréquemment sur des accusations de sorcellerie. Dans des jugements rendus par le magistrat centrafricain sur la presse écrite du pays, dans les prisons, dans les hôpitaux, auprès de devins guérisseurs Nganga, on observait un phénomène qui devait ensuite retenir toute notre attention. Sur fond, je dirais, de représentation et même d'un vocabulaire de l'attaque sorcellaire qui, de toute évidence, s'était transmis à travers les décennies, les mécanismes d'imputation, le traitement, la régulation des affaires se dissociaient progressivement de procédures standardisées, socialement admises, de réparation du mal et de réintégration symbolique de la personne accusée de sorcellerie dans sa communauté. L'accusation, dont le moment fort demeure, comme vient de le rappeler aussi Sandra, celui de la nomination du sorcier de la part de sa victime, débouche en Centrafrique sur de nouvelles violences, sur des mécanismes d'expulsion ou d'annihilation des sorciers présumés, particulièrement violents, dont les cas paradigmatiques me semblent être d'une part les techniques horribles et baroques d'élimination d'enfants sorciers et d'autre part les rapports non moins baroques d'enquêtes préliminaires menées par les forces de l'ordre centrafricaines dans des affaires de sorcellerie. Alors, une précision pour ceux qui s'occupent de ce sujet en particulier, il ne s'agit pas ici de postuler l'existence de mécanismes homéostatiques à travers lesquels, dans le passé, les sociétés centrafricaines ou banguiennes se seraient rééquilibrées dans les moments de crise, y compris à travers le traitement ou l'expulsion du malheur incarné, des mécanismes qui se seraient alors éventuellement pervertis avec le temps jusqu'à devenir source et symbole des règlements modernes. Au contraire, les documents d'archives dont nous disposons, mais aussi d'autres travaux, enfin, on peut citer celui de Mary Douglas, par exemple, parmi tant d'autres, mais les documents d'archives, surtout, dont nous disposons, témoignent de la violence exercée à toutes les époques et à toutes les latitudes contre ces monstres sociaux qui sont les sorciers. Donc il est impossible d'arguer une spécificité de violence antisorcellaire récente en prenant comme unité de mesure leur augmentation ou leur exacerbation présumée. Par contre, on enregistre effectivement, en Centrafrique surtout, des cas de passage à l'acte, torture, lynchage, meurtre, de la part d'individus ou de foules qui, en voulant faire justice eux-mêmes, et je cite ici Sandra dans son introduction au livre, se présentent comme l'expression d'un ordre normatif alternatif, prenant acte de l'échec de la violence légitime de l'État, et je dirais aussi de l'échec des mécanismes de régulation traditionnels, en quelque sorte, si je peux utiliser ce terme, et à la limite aussi de se proposer dans des églises, des groupes de prière et dans d'autres lieux de la guérison divine. S'il y a, en d'autres termes, une distance qui sépare ce que Sandra a écrit, la culture policée et régulée de la sorcellerie villageoise d'un côté et l'imaginaire des violences sorcières à l'œuvre dans les situations contemporaines d'autre côté, le problème qui se pose, et qui s'est posé en particulier à moi, a été de mesurer l'écart et la profondeur cet écart, cette distance, sa profondeur, sa signification. Une chose est reconnaître, à la suite d'Evans Pritchard et après lui de plein d'autres collègues, que de nouvelles situations demandent une nouvelle magie. Autre chose est réfléchir à l'articulation et aux écarts de représentations anciennes et récentes, sans postuler, et aussi de pratiques anciennes et récentes, sans postuler la concaténation logique de crise endémique d'une part et recrudescence de la sorcellerie d'autre part, sachant que les traditions africaines ont toujours été, comme le dit André-Marie, toujours voyageuse, et qu'elles ont toujours pratiqué l'emprunt, l'invention, l'innovation en relation avec le monde étranger et par le truchement de la dimension de l'invisible. Alors, c'est sur ce point en particulier que l'approfondissement ethno-historique s'imposait. Ce parti pris méthodologique, il faut le dire, intervenait dans un moment particulier du débat anthropologique où proliféraient les recherches qui reliaient plus ou moins explicitement la résilience ou l'aggravation de la sorcellerie en Afrique au dysfonctionnement politico-économique de la modernité néolibérale, se tournaient vers le passé des sociétés centrafricaines équivalait en quelque sorte à remettre en cause la pertinence heuristique des effets néfastes de la modernité ou de l'effondrement de l'État ou de l'insécurité et de la paupérisation galopante comme déclencheur unique, exclusif des violences ordinaires qui traversent ces sociétés. Ces violences et ces dysfonctionnements s'inscrivent à la fois dans une histoire longue de famille, de communauté, mais aussi nationale. Et dans des récits historiques, dans l'émail d'un travail mémoriel où l'oubli stratégique du passé, sur lequel je reviendrai, se greffe sur des interprétations agonistiques, voire même guerrières, du présent et de ses désarrois, qui sont très répandus en Centrafrique. Alors, seul problème de cette démarche ethno-historique, la Centrafrique a été un terrain délaissé par les chercheurs, où les enquêtes ponctuelles se sont raréfiées en laissant un vide documentaire dont... avec Bruno, on commençait à découvrir peu à peu la profondeur. Alors, je suis obligé de passer sur une longue partie dans laquelle je voulais vous raconter un peu le travail d'archives qui a été inauguré par Bruno. Il faut savoir, et que nous, ces étudiants, nous avons suivi, il faut savoir que dans les années, on a entamé un travail de dépouillement systématique des documents et des thèses, des mémoires conservées en Centrafrique. Moi, j'ai sur mon ordinateur ce qui reste de des mémoires soutenues à l'université de Bangui, des mémoires de l'école nationale d'administration et de la magistrature, l'ENAM, des documents conservés dans les archives de l'ex-Orstom, ces mêmes archives en sortant desquelles, un jour de 2002, Bruno s'est trouvé face à face avec les Banyamulenge, les ex-mercenaires rebelles rwandais que Jean-Pierre Bemba avait envoyés en Centrafrique en 2002. Et la suite de l'affaire se joue aujourd'hui à la Cour pénale internationale, un souvenir dont Bruno, sur lequel il revenait très souvent. Les documents conservés dans les archives de la FATEB, les documents conservés dans ce qui restait des archives du Musée national Barthélemy Boganda, des pistes de recherche inédites qui s'ouvraient, le travail qui m'amena ensuite dans les archives des pères spiritaines en région parisienne, et ainsi de suite. Donc un patrimoine, effectivement, de et puis, je ne voudrais pas oublier, il entama un travail de dépouillement et d'analyse et de scannerisation aussi des matériaux conservés dans les archives de la MSHO, la mission sociologique du Haut-Ubangi, qui a été la grande mission anthropologique ou sociologique dans la région ubangienne et dans laquelle se trouvent, par exemple, des notes manuscrites d'Éric de Dampierre. Vraiment d'une très grande importance. Et ça aussi, je les ai retrouvés sur mon ordinateur pour préparer cette communication. Alors, l'analyse critique des matériaux d'archives a permis de restituer une certaine profondeur historique aux phénomènes qu'on étudiait sur le terrain centrafricain. Et deux ordres de considération se sont alors dégagés. D'abord, comme Bruno l'a écrit dans l'un des deux rapports sur le patrimoine esthétique et artistique centrafricain qu'il rédigea pour l'UNESCO, le pays est exemplaire d'une inquiétante situation de déperdition d'objets et de savoirs. Au même moment, Jan Lodewijk Grauters, qui dirigeait l'exposition et le formidable catalogue de l'exposition Ubangi consacrée à l'art centrafricain, arrivait au même constat et il introduisait même la question de la dépossession des savoirs sur laquelle j'étais particulièrement intéressé. Deuxième ordre de considération, à travers ce rapprochement de matériaux d'archives et de données et d'informations recueillies sur le terrain, on s'aperçut bientôt du fait qu'en Centrafrique, des discours locaux sur l'histoire, la culture, les traditions des sociétés centrafricaines s'étaient progressivement substitués, je cite Bruno, à une information qui semble avoir progressivement disparu. Je me borne à mentionner deux exemples marquants. Le premier est cette histoire d'après laquelle les Bandas de Centrafrique qui peuplent le centre du pays seraient originaires de la Somalie. Je vous passe les détails à travers lesquels cette théorie, absolument sans aucun fondement, s'est produite. Mais ce qui compte est le fait que cette théorie se retrouve dans des documents d'appui à l'enseignement écrits par des formateurs de l'université de Bangui. Elle se retrouve dans les mémoires que Bruno avait retrouvées à l'école nationale, à l'ENAM de Bangui. Donc il se posait la question de reconstituer en quelque sorte la circulation de ces informations, de ces réinventions, si vous voulez, de la tradition. Je passe sur le deuxième exemple, c'est un peu dommage, mais je passe sur
non,
le deuxième.
Non, vas-y,
non, mais le deuxième exemple, c'est un peu plus personnel, c'est-à-dire dans les mémoires sur la culture, l'histoire et les traditions banda déposées à l'université de Bangui, les étudiants dans les années 80 et 90 citent parmi leurs sources orales un certain Ngoutidé Raymond Obal, cultivateur au village Liwa près de Bambari. Il s'agit d'une figure prophétique de très grande importance pour l'histoire centrafricaine. Qui donc, je vous passe là aussi les détails, c'est celui qui la photographie campe sur la monographie que j'ai tirée de ma thèse. Et donc, il y a en quelque sorte des protagonistes de l'histoire qui parlent eux-mêmes, qui donnent leur même version des événements dont ils ont été protagonistes, et notamment, en l'occurrence, des mécanismes et des événements qui ont produit la conversion de la population banda au christianisme. Sauf découvrir que ces étudiants ils n'ont jamais écouté ce que ce monsieur voulait leur dire, mais ils ont recopié, ils se sont limités à recopier d'une mémoire à l'autre un très court texte qui était publié à la fin des années 70 en France dans un livre de contes centrafricains où l'histoire du prophète qui est appelé l'Illuminé apparaît à côté de celle de crocodiles qui parlent, animaux anthropomorphisés avec des échos de La Fontaine, etc. Donc, et j'en viens alors au cœur de la question. Ces usages actuels du passé font très nettement signe vers un régime d'historicité spécifique du contexte centrafricain qui procède par des actes de rémémoration, de reconstitution, de réinvention du passé, dont la fonction vise autant à rassembler qu'à exclure, et par des processus d'oubli, on comprendra à la suite de Bastide, moins comme de manque que comme de vide plein de quelque chose. Mais de quoi? Le problème se pose, de quoi? Alors, si il est vrai que ces sociétés ont toujours pratiqué l'invention et l'innovation, et que par ailleurs, historiquement, l'hostilité affichée d'administrateurs et missionnaires a contribué à l'effondrement d'institutions et repères culturels anciens, cependant, la réapparition d'objets, de termes, de noms, d'esprits, d'institutions du passé, dans les nouveaux contextes marqués par les tensions interpersonnelles, par les échos de la menace sorcellaire, ainsi que les contradictions manifestes des récits historiques qu'on a enregistrés sur le terrain, révélaient des dynamiques complexes qui ne se limitent pas à des processus de substitution ou d'invention d'informations manquantes ou perdues. En 2012, dans sa contribution à l'ouvrage dirigé avec Jackie, Bruno publie ces deux photos, dont si j'avais eu connaissance, probablement j'aurais évité d'écrire des dizaines de pages de ma thèse de doctorat, parce que en essayant d'exprimer le même concept qui est là montré. Alors, il s'agit de deux photographies que ont été prises à Bambari, en plein pays Banda. On y voit des magistrats de la cour d'appel qui présentent une pièce à conviction exceptionnelle, conservée à la gendarmerie de ce chef-lieu préfectoral, qui a été retenu pour condamnation dans une affaire criminelle d'homme caïman. L'objet, constitué d'un casque de vannerie hérissé de pointes, a été enregistré par les gendarmes et défini comme un scaphandre permettant à l'homme caïman de rester durant des heures sous l'eau sans s'asphyxier pour atteindre sa victime, les hommes caïmans étant effectivement censés vivre en Centrafrique sous l'eau, où ils survivent grâce à des calebasses renversées qu'ils tiennent sur la tête, qui leur permettent de respirer, sous l'eau, où ils ont constitué un tribunal alternatif dans lequel ils jugent et tuent leurs victimes. Or, le casque, dont vous voyez ici les magistrats de la cour d'appel qui sont en train d'indiquer le fonctionnement, Le casque est en réalité un casque d'initiation à la Ganza, la cérémonie de passage à l'âge d'homme chez les Banda de Centrafrique. Il s'agit d'un spécimen en très bon état, très rare dans un terrain où l'initiation ne se pratique plus dans sa version ancienne. André Gide déplorait, après son passage par Bambari le 13 et 14 octobre 1926, le fait que des représentations des chants et des danses Ganza avait été organisé moyennant rémunération en occasion de son passage par la localité. Curieusement, en contraste avec le manque d'informations et d'études scientifiques sur ces institutions anciennes, ces images, peut-être en raison de leur caractère spectaculaire, ont connu une certaine diffusion. Je vous passe sur les 1000 exemples, et on les retrouve dans le livre Parure africaine de Denis Paulm. Une image des initiés Ganza accueille le chercheur à la médiathèque du Quai Branly aujourd'hui sur le grand écran qui projette en continu des images ethnographiques. En 2012, Bruno Martinelli écrit à propos de cette scène que l'objet en question a suscité des surinterprétations de magistrats et de gendarmes sur la manière dont les pointes pouvaient, contre toute logique, servir à respirer. Il précise qu'à la méconnaissance des cultures centrafricaines de la part des magistrats s'ajoute une raison plus fondamentale: la réinterprétation sorcellaire de la tradition. Je veux suggérer, ça c'est la même scène dessinée par Alexandre Yakovlev, l'artiste qui a accompagné la mission Citroën, la croisière noire, dans la région oubangienne. Vous y voyez des détails, dont l'un qui n'a aucun sens, c'est le petit bâtonnet qui perce le nez de l'anissième, elles sont tombées. C'est des images assez connues, assez célèbres. Elles ont été prises évidemment à Bambari, tout comme cette photographie qui vient de la mission Citroën. Ça, c'est moi qui ai appris en 2007 lors d'une reconstitution faite à Bambari le jour de la fête des mères. Alors, je voudrais suggérer, si vous me permettez de le faire dans le peu de temps qui me reste, que non seulement la situation centrafricaine est plus articulée, mais que Bruno en a eu parfaitement conscience et qu'il a essayé de l'analyser en introduisant entre le texte de 2012 et celui de 2015 un certain nombre de concepts pour essayer d'appréhender les phénomènes observés. La scène observée, montrée dans ces photos, est exemplaire du rapport qui s'est noué dans le temps en Centrafrique entre la sorcellerie d'un côté et les usages sociaux du passé d'autre part. Ce rapport, ce régime d'historicité que j'aurais quant à moi quelques années plus tard nommé de la dépossession, ne se réduit ni à un phénomène d'invention de la tradition, ni à des phénomènes de diabolisation de la tradition qui sont par contre bien présents en Centrafrique sous l'effet de l'éthos néopentecôtiste. Il ne s'agit pas d'inventer une tradition parce que les magistrats ne sont pas en train de reconstituer, de surinterpréter, de inventer un phénomène du passé pour asseoir et légitimer leur action dans le présent. Au contraire, ils extraient cet objet du passé auquel il appartient. Ils en modifient les attributs essentiels, on pourrait dire ontologiques, le transforment dans l'emblème matériel d'un monde parallèle et invisible où des sorciers exercent une justice alternative contre laquelle eux, magistrats et législateurs du monde diurne, sont implacables. La tradition, le passé et l'initiation Ganza ne sont même pas des référents présents sur la scène, malgré la présence matérielle de cet objet par terre. Mais précisément à cause du fait que la tradition est complètement évacuée de la scène, nous ne sommes pas non plus devant un cas de diabolisation de la tradition. Aucun lien explicite est proposé par les magistrats centrafricains entre le caractère ancien ou traditionnel du casque et son utilisation sorcellaire. Aucune théorie émique intervient à expliquer comment un objet d'initiation aurait pu devenir un objet de sorcellerie. Disparaissant d'une tradition et d'un passé qui ne sont en aucun moment pris en compte par les magistrats, le casque Ganza réapparaît dans un monde sous-marin, peuplé d'hommes caïmans et de sirènes Mamiwata, où des juges sorciers punissent et tuent les centrafricains. Le défi des recherches sur la sorcellerie en Centrafrique me semble être bien celui d'analyser et de proposer une théorie scientifique qui puisse rendre compte du fait que, en plein pays Banda, des magistrats instruits, entourés de personnes qui ont certainement vu ce casque, sinon sur la tête de vrais initiés, au moins dans des mises en scène et reconstitutions lors des festivités nationales comme celles que je vous ai montrées, puissent soudainement devenir aveugles à ces significations et oublier, entre guillemets, son contexte d'utilisation réelle. J'en viens donc à la fin. En passant du texte de 2012 où il a proposé ses photos à celui de 2015, Bruno parle d'abord d'ancrage cognitif, de configuration cognitive, puis très explicitement d'impuissance cognitive de la justice centrafricaine face au polymorphisme de l'interprétation sorcellaire. Ailleurs, il reconnaît l'urgence d'apporter, je cite, un éclairage sur certaines manières de penser la sorcellerie en la dégageant d'ordre institué réducteur. Il cite alors Mary Douglas lorsqu'elle écrivait à propos des croyances en la sorcellerie de zones d'ombre que l'on ne peut ni observer ni questionner. Alors c'est là que j'entends les échos de ce que vous disiez hier à propos des systèmes d'apprentissage cognitif. Alors sans virer vers une analyse d'ordre cognitiviste qui, j'en suis sûr, n'apporterait pas vraiment d'éclairage sur la dissociation à l'œuvre dans cette scène, dans ces photographies, et en général n'apporterait pas d'éclairage sur les usages sociaux du passé et de la mémoire en Centrafrique, je crois que la nécessité se pose d'interroger la manière dont, dans ce pays équatorial, l'oubli du passé, qui est lui-même un phénomène historique, aboutit à une sorte d'hallucination sociale. La perception d'un autre proche, persécuteur, dévorateur, nourrit ce que Bruno a appelé, dans son article pour Libération, une conscience victimaire de la majorité centrafricaine. Mais exaspère aussi ce que Jean-Paul Ngoupandé, ancien premier ministre de la Centrafrique, définissait en 2000, bien avant les événements récents, une conscience du désespoir qui peut se manifester chez les populations centrafricaines, je suis en train de citer, sous la forme d'une résignation prolongée, mais aussi, si l'on y prend garde, explosée de manière imprévue et irrémédiable. C'est sur cette note que je termine mon exposé. Voilà.
Comme l'image, vous l'aurez compris, le rappel. Non,